J'ai vu, je sais qui c'est, mais je dirai rien.
Un vrai tueur, le meilleur de toute la ville.
Il s'appelle juste Leblanc.
Ah bon, il a pas de prénom.
Vous écoutez ce que je raconte là ou je suis en train de pisser sur un violon là?
Bonjour, c'est bon, la lumière est allumée. Bonjour et bienvenue dans Scope, l'émission qui vous parle de cinéma sur Radio Campus de 16h à 17h tous les mercredis, même quand on préfère se réfugier à l'intérieur. La canicule semble nous guetter à chaque coin de rue. La vague qu'on vient de connaître est terminée, mais la semaine dernière, elle nous a causé de reporter l'émission Queer Joy et nous en sommes désolés. Et maintenant, le bruit court qu'une nouvelle vague de chaleur tombera bientôt pour que le studio non climatisé pour le confort de vos petites oreilles, mais c'est pour ça que vous entendez peut-être la petite fenêtre ouverte pour notre propre survie, incarne le véritable défi qu'est la fournaise du monde de la radio. Ainsi, pour éviter un mercure trop élevé, ou bien pour se retirer un temps afin de se remettre de la perspective des horreurs que représente notre avenir, seulement causée par la conséquence de nos actes en tant qu'espèce doublée de notre impuissance quant à la précipitation de notre planète vers une existence de sursis et de souffrance par la faute d'une micro-frange ultra riche en décorrélation complète avec notre réalité climatique et responsable d'un taux majeur d'émissions, rendant n'importe quelle action globale et groupée absolument inutile, réfugions-nous à l'intérieur. Fermons les portes, les fenêtres, faisons-les disparaître et enfonçons-nous dans nos édifices, les pièces qu'on a bâties, les murs, les couloirs, au plus profond, au plus frais, au plus froid, à l'humidité de la moquette et du papier peint face au bruit sec des néons au plafond. Échappons à l'horrible de l'extérieur pour nous réfugier dans l'horreur de l'intérieur. Au vertige de notre modernité, à la multiplicité faisant disparaître l'humanité, parce que le monstre était peut-être au-dedans depuis le début. Ces espaces, on les appelle liminaux, et c'est eux qu'on va aborder à l'occasion de la sortie du film Backrooms, évidemment en salle depuis maintenant 2 semaines, et emboîtant le pas à Obsession pour devenir le phénomène horreur de 2026, ou au moins de l'été 2026, qui sait ce qui nous attend. Backrooms, film du studio A24, réalisé par le jeune Kane Parsons, alias Kane Pixels, alias vous saviez qu'il a que 20 ans, alias faites disparaître cette image de mes réseaux sociaux. Le film reprend le phénomène des internets entre photos mystérieuses, imaginaires profonds et espaces liminaux pour une ambiance carrément dérangeante. Tout a déjà été dit sur les backrooms et le liminal, on ne peut avoir la prétention de dire plus, donc on s'est dit qu'on allait faire le point. Vous résumez tout ça et mettre de l'ordre dans ce dédale. Et quelque part, un peu au milieu, prendre le temps de vous dire ce qu'on a pensé du film quand même. Mais bien sûr, je ne suis pas seul pour cette émission. À la technique, comme les radios Daysync, elle maîtrise son matériel son et des labyrinthes d'aujourd'hui, elle va les explorer jusqu'au fond, c'est Victoria.
Waouh, salut tout le monde.
Et avec moi à la table, elle est maintenant incollable sur le liminal et n'hésitera pas si nécessaire à en dire du mal, c'est Sarah.
Hello, hello.
Et enfin, il amène à la table un sujet de Feldup, mais c'est à propos d'un bouquin qui va être un sup, c'est moi, Martin, qui vous présente cette émission dédiée aux Backrooms, surtout au film Backrooms, à l'occasion de cette sortie un peu spéciale du studio A24 qui revient un peu sur la table. Mais j'ai l'impression que ce film, quand même, s'accompagne de plein de vidéos explicatives sur internet que tout le monde s'est dit ah, je vais revoir ce que ça dit avant d'aller voir le film, et même plein de personnes qui ne sont peut-être même pas au courant de ce que c'est, et je les envie, on en parlera plus tard. Les espaces liminaux, du coup, un mot qu'on n'utilise pas très souvent et qui est une définition en fait qui se prouve à plein d'égards très personnelle. Pour vous, pour définir à nos auditeurs, mais déjà par rapport à votre sensibilité, c'est quoi un espace liminal pour vous?
Alors, déjà petit point de français. En français, on dit un espace liminaire, des espaces liminaires, et pas liminaux.
C'est un anglicisme.
Voilà, ça a chipoté, mais après avoir écrit dessus et faire des recherches pendant tout le week-end, j'y tiens au petit point français. Voilà.
Je t'en remercie. J'allais faire la faute toute l'émission et je m'en serais mordu les doigts si tu l'avais dit qu'à la fin. Dieu merci.
Et attention, les correcteurs aiment bien changer ça en luminaire, bien sûr, parce que c'est pas très éclairé en plus. Qu'est-ce que ça m'évoque? Eh bien, moi, ça m'évoque un phénomène générationnel, en fait, avant tout. Peut-être même qui concerne les gens un petit peu plus jeunes que moi, donc pile dans ta tranche d'âge, finalement, Martin. Celle de mon petit frère aussi, qui, lui, a vraiment, voilà, il a vu la première image à la base sur 4chan, il a connu les threads Reddit, les premières vidéos YouTube sur le sujet, il a grandi avec Feldup. Et moi, j'ai l'impression d'être un petit petit peu passé à côté de tout ça. J'en entendais parler, mais de loin, voilà. Et donc ici, pour moi, l'émission, ça a été l'occasion de m'y plonger parce que j'y suis toujours restée plutôt extérieure, finalement.
Pour donner un point de repère, sans avoir la non-gentlemanerie de te demander ton âge, quelle est ta génération à peu près, pour qu'on sache
Je suis de l'an de grâce 1999, d'accord. Bien sûr.
Et avec Victoria, je crois qu'on est tous les deux 2004.
Non, je suis 2003, moi.
T'es 2003. Ah, ouais. Oh, je suis le petit dernier, bonjour. Et toi, Victoria?
En fait, c'est particulier parce que je trouve que c'est un mélange de plein de trucs et en fait, plus tu te renseignes sur le sujet, plus ta perception du concept en lui-même évolue en toi aussi. Mais avant de me renseigner, en fait, je voyais plutôt ça comme des espaces un peu laissés à l'abandon, qu'ils soient hyper trop symétriques, qui t'angoissent par cette over-symétrie comme les backrooms ou autres. Mais en tout cas, c'est des espaces laissés sans vie alors qu'ils ont été conçus pour accueillir de la vie. Et c'est le fait de les retrouver des années après cette même conception complètement à l'abandon qu'on peut éprouver un certain malaise parce qu'on ne se sent pas à sa place dans cet endroit-là. On sent qu'il y a un truc poisseux, on ne devrait pas être là et on se demande si on est tout seul. Voilà.
c'est très pertinent. Tu parles beaucoup d'abandon d'un endroit. Est-ce que pour toi, comment est-ce que tu le rapportes au phénomène de l'urbex? Est-ce que pour toi, ça a un lien dans ta perception du sujet?
Ouais, mais en fait, je pense que ta perception du sujet influe pas mal par rapport à ce que te provoque en toi en termes d'émotion la thématique aussi. Parce que les backrooms, je pense que ça n'a rien à voir avec le dupe. La première fois que j'ai entendu, c'est avec le jeu Lethal Company. Parce que bon, backroom, c'est devenu
Mais oui.
Oui. Et en fait, j'ai vu les redives de la team du lundi. Faut avoir la ref. Mais en fait, voilà, j'ai entendu ça pour la première fois là-dedans. Parce que, les backrooms, c'est devenu tellement un phénomène que ça a été repris dans plein d'œuvres après, dont des jeux vidéo et dont Lethal Company, qui est un jeu vidéo français, je pense, en plus.
Je suis pas sûr de cette info, faudrait check. Est-ce que c'était le replay où il y avait Feldub, justement, qui jouait avec eux?
Oui, entre autres.
Oh, c'est une super vidéo. J'allais dire, la vidéo qu'on va recommander, c'est la conférence qu'on a écoutée sur le sujet, mais c'est vrai, Lethal Company, donc c'est un jeu indépendant qui a eu une heure de gloire l'an dernier, si je dis pas de bêtises.
Mais deux ans, non? J'ai l'impression que ça fait déjà deux ans
et ça a quand même un peu duré, l'air de rien.
Oui, ouais, je suis sûr qu'il y a encore des joueurs dessus, mais il y a eu un gros pic à un moment et où on joue donc des petits astronautes qui doivent aller dans des endroits abandonnés, récupérer des sortes de pièces, de vieux objets qui ont de la valeur pour les revendre. Et il y a évidemment plein de monstres.
Il y a des boogeymen
et plein de pièges. Et surtout, en fait, il y a du chat de proximité. Donc, quand vos amis s'éloignent, on les entend plus ou on les entend moins et ça donne ironiquement des moments extrêmement comiques.
En fait du coup j'ai entendu ça pour la première fois là-dedans et en fait du coup j'ai découvert la backroom comme ça et en général les urbex, enfin les vidéos de gens qui font les urbex ou même le fait de faire un urbex, ça m'angoisse parce que c'est hyper oppressant et en fait vraiment cette impression de cet endroit il est pas moi, je devrais pas être là, c'est angoissant que il y a la vie qui reste encore parfois dans cet endroit et j'entre un peu dans l'intimité de gens qui sont probablement décédés en fait et en fait moi ça me procure de l'angoisse et du coup, les backrooms, ça m'intéressait par rapport à ça. C'est le côté un peu genre, ça me fait peur, mais en même temps, ça m'excite parce que ça me fait peur. C'est un schéma un peu...
Le petit côté addictif.
Tu me fais réaliser que j'ai complètement vécu un truc très récemment qui montre ma réaction face à ces espaces. Dans mon immeuble, on était dans une cage d'escalier pas plus tard qu'hier soir. Et il y a genre tout un espace qu'on sait qui est abandonné, qui est censé être en travaux, qui bouge pas. Et je sais que récemment, un de mes amis qui a visité était allé voir. Et je me suis retrouvé devant la porte en bois, avec la vitre à travers laquelle on peut pas voir, mais c'est quand même une vitre qui est en haut, qui est fissurée et tout. Et je me dis, je m'approche pas de cette porte à 4 mètres.
Dans les backrooms,
je tiens 2 mètres. On parlera du film, mais l'un des soucis qu'on disait, je commence avec les soucis alors que vous allez voir, j'ai des trucs très différents à dire du film. C'est tout ce qu'on disait pendant le film, c'est pourquoi le mec reste, pourquoi il part.
Oui.
Moi, je mets 2 pas, je fais écho, et je m'en vais.
Oui, voilà, c'est une horreur.
Faut partir. Mais c'est marrant qu'il y ait toute cette tendance et que ce soit même pas quelque chose de concret, et que c'est, en fait, on essaie juste de décrire un sentiment, sachant que ça vient d'Internet, donc du coup, c'est surtout des espaces, des photos qu'on a vues, c'est un phénomène surtout photographique, qui a créé une case, que ce soit surtout des gens qui ont un sentiment et qui essayent de mettre un mot dessus et que tous les débats arrivent sur qu'est-ce que ce mot veut dire pour moi plutôt que est-ce qu'on essaie de définir ce que ce mot veut dire. Et avec l'origine internet, j'ai presque envie de le lier au concept des mèmes où en fait on a tous ces, on a plein de dérivés, enfin des milliers de mèmes à l'heure où on parle, on attend que ce soit des millions, mais c'est surtout pour mettre en image des rapports de domination, des rapports de conflit. Et si tout le monde adapte sa situation à travers ces mèmes, c'est pour véhiculer un sentiment. J'ai l'impression que c'est quelque chose qu'il faut dire sur la culture internet, c'est que c'est une quête de sentiments, peut-être. Je pense que les espaces liminaux s'inscrivent dans cette mouvance.
Même le mot liminal, ça fait penser à limite. Et du coup, moi, j'ai un peu l'impression qu'on parle d'un endroit qui a été poussé jusqu'à sa limite, un endroit buggé, quoi.
Il faut savoir que le concept de liminarité, que je ne serai pas vous définir ici, est un concept sociologique, il me semble, qui existait bien préalablement à ces espaces. Et ce nom, on l'a collé par-dessus. Mais ce n'est pas ce phénomène qui a créé ce nom. Oui. Le nom existait déjà et on l'y a rapporté.
C'est vrai. On l'entend notamment, c'est par rapport à la conférence, du coup, on a entendu ça. Voilà, je voulais dire, pour ceux qui veulent en savoir plus, ou même beaucoup plus, et sont intrigués par ces premiers mots qu'on a mis dessus, on vous invite vraiment à aller chercher sur YouTube la conférence de Blast, qui a vraiment les Avengers des backrooms. Je ne pouvais pas espérer meilleur roster d'analystes. On a fait le dupe, donc, qui a amené notamment le phénomène en France. Il y a Al236, qui est un grand analyste des imaginaires. Il y a Paco Mutilement, qui est génial, juste. Et il y a Bolchevik Benjamin Patino, qui est toujours très pertinent. C'est une conférence de 1h30, quelque chose comme ça, qui brasse tout le sujet. C'est vraiment super intéressant. Mais donc, pour résumer, il y a plein d'images qui sont arrivées sur Internet, Internet est un repère d'images. Et au bout d'un moment, plein de personnes en voyaient certaines et avaient un sentiment un peu particulier dessus, un peu comme si la vie avait disparu de ces endroits, qu'ils n'avaient pas vraiment d'identité, qu'ils étaient particulièrement lisses ou qu'on pouvait aussi lier à une forme de surmodernité. Enfin, on essayait de tisser des liens entre ces images et on a créé une case qu'on a appelée donc des espaces liminaux liés à ces images, qui est donc un terme qui prédate, comme tu disais, Sarah. Et une image marquante qui s'est inscrite dans cette case, c'est une image qui va lancer toute cette mouvance, tout l'imaginaire des backrooms qui va émerger d'une seule image. Est-ce que l'une de vous veut expliquer un peu l'origine de Smith? Ou je m'y colle, je m'y attelle.
Moi, je suis chaud, mais c'est rare.
Si t'as envie, vas-y.
Okay. En vrai, j'ai tout appris grâce à Monsieur Fedup, bien sûr.
on regardez Findings, évidemment. Le dernier est très cool. Le dernier très cool. Je sais pas si vous l'avez vu.
J'adore quand il déterre des chansons dont personne connaît l'origine. Je trouve ça fascinant.
Pas du tout mon univers.
Ok. On en parlera.
Mais de ce que j'ai compris, en fait, tout commence avec une image sur 4chan d'un mec ou d'une personne, je sais pas si c'est un mec, mais en tout cas d'une personne qui a
4chan
anonyme,
quelqu'un d'anonyme,
un 4chan,
voilà.
Donc il y a un forum pas spécialement du début des internets, mais un peu un.
C'est en 2003 quand même, la
un forum fondateur mythique et pas forcément très bien pour l'humanité.
Il y a le meilleur comme le pire d'internet, on va dire.
Et en fait, c'est quelqu'un qui a posté une photo d'un bureau abandonné. Mais en fait, ça pourrait juste s'arrêter à la photo d'un simple bureau. Mais en fait, le problème, enfin, c'est pas un problème, mais ce qui a rendu cette photo célèbre, c'est qu'en fait, des gens, via ce post sur 4chan, se sont rendu compte que sa géométrie, sa construction était un peu dérangeante par le choix de l'éclairage. C'est vraiment des éclairages de vieux bureaux des années 70, un peu.
Tout jaune, tout néon.
Il y a une ambiance vraiment très poisseuse. Et en fait, moi, je trouve que ce qui accompagne le sentiment de la colorimétrie et les éclairages, c'est aussi le cadrage. Ouais. Parce qu'en fait, c'est une photo. Faut imaginer, mais en gros, on a le début d'un mur devant nous au premier plan. Mm-hmm. Et puis, on voit que derrière ce mur continue beaucoup plus loin le bureau et que continue derrière lui cet espace un peu angoissant. Et en plus de cette photo, quelqu'un a mis un commentaire qui disait en gros.
Que j'ai sous les yeux. Pour moi, c'est l'une des meilleures histoires d'horreur de coin du camp qui puisse exister.
Une micro-fiction, comme
mais,
on les aime.
Oui, mais parce que c'est vraiment
c'est
juste une image et un texte. Et alors déjà, l'image, donc, elle a ce truc dérangeant du vide qui va essayer de toucher au liminaire, et non pas au luminaire avec les néons, qui est un peu profond, qui est un peu vide. Elle est légèrement débulée, ça j'adore. Ouais. C'est un tout petit peu penché, ça, c'est ce truc de mise en scène, même accidentelle. On sait que c'est accidentel.
Moi, ça me rend zinzin. J'aime bien mes photos bien droites.
Bah voilà. Et là, si, alors je vais le traduire à la volée, mais vraiment, chaque mot est parfait. C'est génial. C'est si vous ne faites pas attention, vous pourriez noclip, donc traverser la réalité ou le sol dans les mauvais endroits et vous finiriez dans les backrooms, là où il n'y a rien d'autre que la puanteur de la vieille.
Moquette,
moisi, merci, j'allais dire carpet, sauf qu'il y a un mot français. Et la folie du jaune monotone, le son sans fin de background des néons qui frétillent, qui hument, et environ 600 millions de square miles de pièces vides dans lesquels vous êtes piégés. Dieu vous sauve si vous entendez quelque chose qui se balade, parce que si vous l'entendez, c'est qu'il vous a déjà entendu.
Ouais.
Et juste quelques phrases comme ça, un peu au hasard là, avec la traduction qu'on essaie de faire au plus vite. Pour moi, chaque mot compte, c'est trop bien fait. Et pour tout ce phénomène qui maintenant implique des centaines de millions de gens, quoi. Enfin, il y a des vidéos, il y a Roblox, il y a tous les gens qui ont pris des places de ciné. Ça vient, je pense, juste d'une personne sur 4chan qui a réussi à sortir, qui a fait un dévin d'intelligence et qui a sorti le texte parfait avec des flammes qui sortent de sa petite plume. Et ça marche tellement bien. Réussite critique, et tout le monde se retrouve embarqué dedans. Enfin, c'est l'histoire d'horreur parfaite.
Mais c'est fou parce qu'en plus, cette photo a été prise en 2003. Et en fait, elle a été postée dans les années 2010, je pense, c'est ce que j'ai compris. Mm-hmm. Et en fait, les gens sont intéressés. Bon, c'est à 10 ans ce phénomène. Puis en fait, ça a grandi au fur et à mesure des années. Et en fait, les gens sur internet se sont dit, on va créer un mythe autour. Et en fait, je trouve ça super intéressant parce qu'il a suffi d'un commentaire très très bien écrit pour rendre la photo une sorte de creepypasta d'internet. Ouais, en fait, parce que c'est un peu obsédé des gens. Et en fait, il faut savoir qu'après, donc, les internautes sont amusés à créer tout un univers autour, littéralement, et ont commencé à inventer le lieu Backroom et le fait qu'il y ait plusieurs niveaux et qu'à chaque fois, chaque niveau était dangereux, etc. Mais après, il y a l'arrivée d'un monsieur qui s'appelle Ken Pixels.
Oui, exactement. Voilà. C'est vraiment 9 lignes de texte. J'ai compté 9 lignes. Ouais. Et alors que l'image est prédatée, l'image existait avant, il n'y a pas de mythe qui s'est créé. Et dès qu'on a eu ces 9 lignes de texte, on a eu une communauté internet qui s'est mise à imaginer un imaginaire. Imaginez un imaginaire, super.
Mais oui.
Avec plein d'étages qui sont tout aussi flippants, tout aussi dangereux, tout aussi vides. Ça partait un peu dans tous les sens, mais c'était très intéressant sur un point de vue créatif.
Et très organique.
Très organique, mais aussi c'est un peu parti en noisette parce que il y a plein de personnes qui l'ont repris à un niveau comique presque. Enfin, on sait qu'il y avait plein de modes Roblox ou de Brain Rot qui s'est mélangé à du Poppy Playtime aussi, qui est un autre jeu indépendant un peu bizarre dans la veine de Five Nights at Freddy's, mais en plus coloré. Jusqu'à, une fatidique vidéo Backrooms Found Footage par un certain Kane Pixel sur YouTube. Petite vidéo qui doit faire 13 minutes, 9 minutes, toute courte, qui est un found footage d'une personne qui tombe du coup dans les Backrooms. C'est littéralement l'histoire qu'on entend, un peu l'expérience qui nous est présentée. Et c'est super comme vidéo, c'est un chef-d'œuvre, c'est des millions de vues. C'est juste un monsieur qui se perd et il y a plein de bruits bizarres et il y a une musique un peu flippante parfois. Et il y a évidemment un monstre quelque part qui se terre.
Et un boogeyman qui te suit, t'es pas tout seul dans le lieu.
J'ai l'impression que l'esprit du génie des Backrooms qui avait touché cet utilisateur random de 4chan a touché ce jeune réalisateur qui avait alors 15 ans à l'époque, quelque chose comme ça.
16 ans, non,
et 15-16 ans. Ouais,
15-16 ans. Et juste en une vidéo de 10 minutes, il a réussi à dire Backrooms, maintenant c'est à moi parce que je suis trop fort.
Alors, une vidéo qui n'est pas en prise de vue réelle.
Oui, c'est en full 3D.
C'est ça.
C'est fou. Ouais.
C'est complètement Blender, qui est vraiment le logiciel 3D de base, gratuit. C'est le Paint de la 3D. Et en même temps, il y a plein de gens qui font de la 3D sur Blender, mais c'est pas non plus du Unreal Engine ou quelque chose. Donc, c'est assez fou que juste des personnes seules arrivent à créer un univers de toutes pièces comme ça. On a juste une image qui flotte et qui arrive à rentrer dans la case du liminaire. Une personne qui arrive à faire 9 lignes. C'est 9 lignes, c'est rien. J'ai envie de compter les mots, je suis sûr, on est à moins de 200. C'est ridicule et ça arrive à emmener des milliers de gens. Et ensuite, une vidéo d'une dizaine de minutes qui arrive à créer un phénomène et maintenant mettre un chef d'orchestre à ce phénomène, encore une fois, où il va faire plein de vidéos à sa suite, créer tout un lore, créer toute une légende, jusqu'à être contacté par le studio A24, célèbre studio plus si indépendant de films plus si indépendant, tellement ça marche et ils ont de récompenses.
Il s'est un peu vendu récemment aussi, mais ça c'est une autre histoire.
et j'aime aussi beaucoup la touch de A24, qui est donc un studio qui se revendiquait très indépendant, très cinéma arty, mais qui est devenu un peu un rouleau compresseur, et où on
américain,
enfin voilà, pas non plus une major, mais pas loin. Et là, pour ce film, alors qu'ils disent on va recruter ce petit gars qui est trop malin et vous savez qu'il a que 19-20 ans, ce sera super pour la com, ils lui ont donné que 10 millions de dollars, je crois. Donc c'est un micro-budget dans une micro-association.
Et au départ, assez peu de gens, il me semble, croyaient au projet parce que tout le monde était là, qu'est-ce que c'est que ça, c'est juste un coup de com', il n'y a pas de budget, on n'a pas de nouvelles, le mec est un adolescent, qu'est-ce qui va se passer? Et ça s'est fait.
C'est ça, projet sous-budgété par une société qui est un peu sur le déclin, enfin plein de personnes pronostiquaient la fin d'A24.
Société qui aime l'argent aussi, il faut le
dire. Oui, société. Réal avec assez peu d'expérience au final, dérivé d'un même internet, c'est comme Michael Bay qui fait un film sur Skibidi Toilet, sur quelle planète on vit. Tout avait toute matière pour se ramasser la tronche, et pourtant, après toutes ces histoires, toi Victoria, tu as pu voir le film, j'ai pu le voir aussi, mais dis-nous, est-ce que le film a marché sur toi?
Oui.
Déjà, est-ce que ça fait peur, vu que c'est un film d'horreur quand même?
Oui, il y a vraiment des endroits où ça m'a vraiment fait bader. Je pense à une scène, ça spoil pas le film, mais la scène du sapin de Noël, ça m'a...
horrible.
Elle est géniale.
Horrible.
En fait, c'est fou parce qu'il se passe pas grand-chose terriblement horrible, terrifiant, de fou, de malade dans cette scène. Mais en fait, cette scène, à elle seule, a une empreinte purement fantastique. Et juste par l'éclairage, ça te met vraiment mal. Et en fait, ça t'angoisse directement parce que c'est super bien pensé. Il y a toute une musique qui fonctionne. On sent que t'es pas seul dans cette pièce, elle est bizarre, pourquoi elle est éclairée en rouge celle-là, etc. Mmh. C'est pas un spoil évidemment, mais voilà, cette scène-là, j'étais fascinée devant, je me dis waouh, mais c'est un vrai bon film fantastique quoi. Voilà quoi.
Donc il fait au moins un peu peur.
Oui, et en fait, je trouve que vers la fin, ça a moins vocation à faire peur sans vouloir vous enlever. Je sais pas, vers la fin, ça a moins eu en termes de pur produit horrifique. Enfin, si vraiment on peut considérer ça comme de l'horreur en tant que telle. Mais en tout cas, moi, dès le début, j'ai vraiment bien senti le côté tu tombes dans le terrier du lapin et tu entres dans l'univers en même temps que ce mec, quoi. Voilà.
Moi, pour moi, le film, il a super bien marché sur moi.
Ouais.
S'il y a eu Barbenheimer il y a 2-3 ans, on est si vieux. là, il y a un Obsession Rooms qui se fait.
Oui.
Moi, je choisis mon camp, c'est
Back
Rooms.
Les gens disent Back Session.
Back Session.
Ah bah,
Et sur Back Session, je suis back. je suis back parce que Obsession, c'est super. Alors,
moi,
je l'ai
session,
lis, alors qu'en soi, il n'y a pas vraiment de Back Session. Enfin, il n'y a pas vraiment de duel comme il avait fait avec Barbenheimer.
Non, mais.
Je crains un peu un duel comme ça, mais ils sont à la même période.
Le phénomène existe.
Et le phénomène existe. Et alors que Obsession, il est super propre. Plein de gens ont dit que c'est presque un film parfait dans la manière dont il est fait. Backrooms, il a plein de petits défauts, mais il a en même temps tellement plus d'identité et il crée un univers. Je l'aime pour les mêmes raisons que j'ai préféré Barbie. Je l'adore pour l'ambiance qui met en place. Pour moi, on s'en sort vraiment. Désolé pour la sirène. Encore une fois, notre fenêtre est ouverte pour qu'on n'ait pas trop chaud. on est en juillet aujourd'hui. Ah, le temps passe vite.
Oui, déjà.
J'adorais comment c'est découpé un peu. J'avais jamais vraiment l'impression de m'ennuyer. Alors qu'il y avait de quoi. On n'est pas tout le temps dans les dites backrooms. On va revenir dans le monde réel à plein de moments et ça pourrait être les moments où on s'ennuie, et ben non, ça arrive à me prendre. J'adore que ce soit deux personnages principaux et pas juste un principal. On arrive à aussi entre les deux. L'horreur marche formidablement sur moi. La scène du sapin, je pense, c'était le plus bas de la courbe. C'était la plus grosse tension que j'avais pendant le film. Et déjà, avant, il y a toute une course-poursuite avant cette séquence qui m'a aussi bien fait flipper.
La pancarte aussi m'avait fait bader aussi.
Début, oui, la première.
Oui,
c'est
non.
Vrai, il y a.
Mais ce qui se passe avec cette pancarte, je veux dire, au bout d'un. Enfin, avec le cadre, il y a un cadre et puis il se passe quelque chose avec cette pancarte. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire.
Qui fait du bruit.
Non, il y a un moment, il regarde dans un cadre, c'est pas un spoil, hein, mais il regarde dans un cadre, et puis on voit qu'il se passe quelque chose avec.
Oui, tu vois. Ah oui, ça, d'accord.
Ça m'a fait bader parce que je me dis, ok, bon, on va vite se tailler, quoi.
Toujours sans spoiler, à travers le petit tunnel.
Oui,
d'accord,
c'est ça, oui. Ça m'a fait bader.
Ça, c'est, oui, il y a en vrai trois explorations majeures. Les trois explorations m'ont mise mal.
Oui,
parce que j'ai la même peur que quand je regarde les vidéos de Ken Pixels sur les backrooms, parce qu'ils me font flipper complètement. Exploration 4 ou Exploration 3, je sais plus, une vidéo de 40 minutes, elle me met au sol. Alors qu'il y a véritablement 40 secondes de tension. Mais c'est parce que je retrouve cette horreur de... Il y a quelque chose derrière chaque recoin.
Ouais. Bah oui.
Tu sais pas ce qu'il y a au coin du mur.
Tu sais qu'il y a quelque chose. Tu sais qu'il y a quelque chose et c'est moins... le sentiment du liminaire où je me dis ah c'est un peu bizarre, c'est un peu déshumanisant, que la peur du boogeyman. Je crois que moi quand je regarde de l'horreur j'ai besoin qu'il y ait un boogeyman qui ait une menace, et si en plus elle est surnaturelle ça marche encore plus sur moi.
À fond, ouais.
Et si je la vois pas, on va parler Skinamarink après, mais Skinamarink c'était conçu pour me faire flipper. Bah là derrière chaque recoin j'ai toujours l'impression qu'il y a un monstre, même si on n'est plus dans la petite caméra pixel analogique, on n'est plus dans la 3D de Ken Pixels. J'y crois encore, j'ai encore cette peur.
Oui, parce que le film a quand même un aspect assez beau, je trouve, assez invitant, assez léché, visuellement. Moi, je n'ai pas pu le voir parce qu'en fait, c'est un tel phénomène que la personne avec qui j'étais censée aller le voir, parce que je ne veux pas voir de l'horreur seule, est allée le voir tout de suite avec d'autres gens. Donc voilà, je me retrouve coincée.
Je suis prêt à retourner le voir s'il faut, mais ça va être compliqué à regarder.
Mais oui, le visuellement, esthétiquement, il a l'air très intéressant, je trouve.
On passe de la 3D, qui est donc toujours du found footage, toujours filmé avec une caméra un peu moche dans les vidéos YouTube. Ouais. Là, au passage au cinéma, on a des décors réels. Et pourtant, pour moi, ça marche encore. L'esthétique est un peu différente. Les lumières sont un peu plus blanches, un peu moins jaunes. C'est à déplorer. Mais il y a quand même une séquence de found footage qui marche merveilleusement, parce que ce qui est génial avec le found footage, c'est que t'as un dos. T'es pas une caméra dans un coin où tu vois tout. Il peut toujours y avoir quelque chose derrière toi. Et je retrouve mon motif préféré de Ken Pixels, qui est le dramatic turnaround. Le Ken dramatic turnaround qui a toujours avec sa caméra. Je pense qu'il a un mouvement de caméra, un fichier comme ça, qui glisse de ses dossiers au logiciel, qui fait la caméra, elle fait un 180 avec un derrière. Et tu sais qu'il y a un truc derrière, ou tu sais pas, peut-être il y a rien. Et à chaque fois que la caméra commence à accélérer pour voir s'il y a quelque chose derrière, je me dis, il y a quelque chose derrière, et c'est le pic de tension. Le turnaround, je le retrouve, et c'est super. Il y a éventuellement, qu'est-ce qu'il y a à déplorer ? Il y a le boogeyman. Alors, est-ce que c'est du. À la fin, est-ce que pour toi, le monstre marche moins bien à la fin, Victoria, sans trop en dire ?
En fait, moi j'aime beaucoup la façon dont on introduit le monstre parce que je trouve ça super intéressant. Parce que, en fait, au bout d'un moment, quand il commence à intriguer, je sais plus parler, à explorer cet univers, en fait, ils se rendent compte qu'ils sont poursuivis d'une manière très menaçante. Cette fameuse scène du hublot qui m'a mise mal, je suis là, oulala, je me casse en fait. et en fait, c'est super intéressant parce que y a quelque chose qui se casse psychologiquement. Sans trop vous en dire, et en fait là on comprend qu'il y a vraiment un vrai boogeyman et que ça urge et qu'il a l'air vraiment très très menaçant, et il y a un certain mythe qui commence à se forger dans la tête des spectatoristes, et en fait on commence à craindre ce boogeyman, son arrivée, et la façon dont il est introduit marche super bien parce qu'on part sur un certain grand angle quand il entre, enfin quand on le voit littéralement entrer dans le cadre, il y a un certain grand angle.
Oui, et le personnage est tout petit.
Oui, et c'est super intéressant parce qu'en fait, ça joue beaucoup sur la création du boogeyman en tant que tel. On lui fait vraiment un très beau portrait dans le cadre. Je sais pas comment expliquer. Et en fait, au début, ça te met vraiment mal, et après moins, parce que je trouve que vers la fin, je pense que le film ne veut pas non plus que tu révulses complètement ce boogeyman non plus.
Oui, parce que il y a un fond. Ouais. Ça, c'est super. Dans les vidéos YouTube, donc déjà je pense qu'il y a une multitude de menaces où on n'arrive pas à la définir, et c'est ça qui fait que ça marche. Donc là, pour le film, il doit quand même un peu expliquer. Ça, je pense que c'est quelque chose que plein de personnes vont déplorer, et je suis peut-être un peu dérangé que là on n'ait pas l'impression qu'il y ait une multitude de menaces ou des monstres non identifiés. On comprend plus on avance que en fait il y a vraiment une menace, ou en tout cas dans cette zone des bas-combes, vu que c'est des millions de kilomètres carrés. C'est presque dommage qu'il n'y en ait qu'un seul, et qu'on puisse presque le corner, voilà, alors que dans les bas-combes c'est cool que Il y a de la menace partout.
N'importe où. Infinité.
Comment ?
Pardon, j'ai un fun fact, si ça vous intéresse. Il y a un personnage, je vais l'appeler le blouse blanche, voilà.
Oui.
Voilà, pour pas trop vous spoiler, le blouse blanche. Tu t'as marqué ou pas, c'était qui l'acteur ? Faut avoir la ref.
Je me pose la question, je suis trop content que tu le dises. Je vois sa tête, et est-ce qu'il était dans une série ? Il faisait un personnage goofy, non ?
Non, pas du tout.
Pas du tout.
Un film d'horreur sur Netflix, enfin qui a été sur Netflix, c'est pas un film Netflix, mais il a été sur Netflix. C'est
Dis-moi.
Un film un peu niche, que en vrai je vous conseille si vous aimez bien l'horreur. C'est un peu du fan footage en plus, ce film-là, qui s'appelle Creep.
Ah oui, ça j'ai vu sur son Wikipédia. Ok,
ouais,
oui.
Et c'était lui en fait.
Il y a un personnage qui est en blouse blanche, donc je l'ai cherché sur internet après, j'ai vu Creep, mais j'ai vu sa tête et je l'ai vu quelque part, et je crois que c'est sur internet et dans un rôle goofy.
Ça s'inscrit doublement dans l'horreur, quoi. Il y a un clin d'œil en plus à l'horreur parce que ce mec-là est devenu connu par Creep. C'est pas un film hyper connu, c'est un peu un film niche, mais en vrai, en tant que vrai fan du cinéma horrifique, une fois que tu l'as vu, ça te met vraiment mal, quoi.
Bah, il y a un truc méta parce que le gars est non seulement comédien, il est réalisateur en plus, je crois. Il a réalisé Creep, et donc du coup, ça fait le réalisateur qui engage un réalisateur pour jouer un de ses personnages. Fou, c'est un motif qu'on connaît, mais j'adore quand c'est méta comme ça. Ouais. Et ça fait une semaine, je sais pas où je l'ai vu. C'est pas dans Creep, parce que pour le coup, j'ai pas vu Creep, j'en ai juste entendu parler, mais je l'ai vu autre part, ou alors je le confonds avec quelqu'un d'autre dans une sorte de sitcom un peu à la Parks and Rec. J'ai l'impression que ça vient de là. Si quelqu'un a une réponse, apportez-la moi, je suis tourmenté.
Mais si vous voulez regarder le film, je vous conseille, parce que c'est un film d'horreur qui dure 1h30, même moins, et c'est aussi un film en fan footage, et je l'ai vu il y a longtemps, mais de ce que je me souviens, c'est l'histoire d'un étudiant qui doit rendre visite à un écrivain, ou en tout cas à un mec chez lui, sauf que en fait ils se rendent compte que l'endroit est bizarre, le mec est bizarre, il y a possiblement un dédoublement de personnalité chez ce mec qui va peut-être le mettre en danger. Et ce qui est super intéressant, c'est que le film est en fan footage et il est vraiment très très efficace. Ça joue vraiment sur le malaise et sur le fait que tu te retrouves un peu en face à face avec ce mec, quoi, en même temps que le personnage. Donc voilà.
La reco du jour, c'est Creep, du coup, sur Netflix, 1h30. Il y aura d'autres recos après. Mais donc voilà, c'est un film que je trouve imparfait. Par exemple, les dialogues, je peux comprendre qu'ils soient pas les plus fins. Moi, ils me dérangent pas. Je vais pas aller jusqu'à dire que je les aime beaucoup. Je trouve qu'ils marchent. Mais je sens qu'on est sur une personne qui est pas encore un virtuose de la création de personnages ou de l'écriture du dialogue. J'espère qu'il a eu un peu d'aide. S'il a fait ça tout seul, déjà très fort. Je m'attends à ce qu'il ait eu en plus un peu d'aide, parce qu'il y a des moments, j'imaginais ses répliques être écrites ou qui sont revues avec un manuel de scénario à côté, anatomie du scénario ou le story de John Truby, Robert McKee, enfin bref. Les dialogues, pour moi, marchent quand même, c'est pas un souci. Les personnages, l'interprétation m'a convaincu.
Ouais.
Les effets visuels me convainquent. Les différentes scènes aussi. Les backgrounds, éventuellement, peuvent être un peu sommaires. Mm-hmm. Enfin, on va pas beaucoup rentrer dedans et ça va être un peu cryptique. C'est bien, plutôt qu'être trop explicatif. Mais j'ai l'impression que c'est des backgrounds type des deux personnages. Même si je trouve celui de Clark, donc du coup, le personnage de Chiwetel et Ejiofor, assez intéressant. Mm-hmm. Et même j'ai l'impression que ça parle mieux de la personnalité de l'incel ou d'homme problématique que Obsession. Obsession, oui. ça l'aborde très bien et c'est très bien que ça l'aborde. Mais parfois j'ai l'impression que le dispositif peut occulter l'interprétation, en tout cas ce que veut dire le réalisateur.
Enfin.
Alors que là, comme on a ce virtuose, ce chef d'orchestre des backrooms, il va réussir à les changer pour dire les choses différemment sur lui. Mmh. Et en plus, il va aller plus loin et mettre le doigt sur des trucs plus profonds, notamment au rapport au passé. Et tout, en fait, ce qui crée les espaces liminaires. Parce qu'on sent qu'il ne va pas juste faire un petit film d'horreur sur son phénomène des backrooms. Il va essayer d'analyser ce qui fait le sentiment du liminaire, qui est cette impression qu'on a déjà été là, ce sentiment un peu vide. Est-ce qu'il y a de l'humanité? Est-ce qu'il n'y a pas d'humanité? Ce rapport au passé? Est-ce que c'est de la nostalgie? Il va réussir à intégrer tout ça dans son analyse de personnage et il va en dire quelque chose d'intéressant. En plus, ce qui est bien, c'est que c'est pas juste une personne de 20 ans ou notre âge, voilà, c'est une personne plus âgée.
Ouais.
Et il a dans la quarantaine, voire cinquantaine. Ça se passe en plus dans les années 90. Donc, du coup, c'est pas comme si ça disait ah, phénomène contemporain. Il dit non, ça existe depuis longtemps. Et c'est pas juste ah, célibataire, jeune, c'est quelqu'un qui est en instance de divorce. Enfin, voilà, c'est la deuxième séquence. L'intro, j'aime beaucoup l'intro aussi du film qui m'a bien fait flipper. Mais j'aime bien que ce soit une situation un peu différente, mais sur un phénomène qui reste contemporain. Enfin voilà, je trouve ça surtout très intelligent là-dessus, et ensuite dans ses références, on sent que c'est quelqu'un qui a quand même travaillé le sujet. C'est pas juste il a pris la main, il a fait un coup d'état et il sait rien, il a eu un coup de bol avec sa vidéo. Ouais. C'est vraiment quelqu'un qui a super analysé.
En plus, il fait une ref à la création même de la photo aussi, parce que c'est pas un spoil, mais comme ça, vous savez, petit, encore une fois, fun fact, la photo d'origine donc sur 4chan donc de 2003, en fait, elle était prise en 2003, mais en fait, ce lieu donc était anciennement un magasin de meubles.
Ouais.
C'est super intéressant parce que la première fois qu'on entre dans les backrooms, il y a des meubles qui sont posés, et donc ça fait un clin d'œil à l'origine même du mythe. Je trouve ça super intelligent.
Bah, même tout l'endroit où il y a donc ce portail vers les backrooms, c'est le magasin de meubles qui a l'air d'être le même. Et après, donc, c'est devenu un magasin, si je dis pas de bêtises, de voitures télécommandées ou des circuits de voitures télécommandées comme une aire de jeu. Mais qu'il ait en plus repris l'origine parce qu'il y a un avant et après. La photo originale des backrooms, là celle avec la petite histoire, c'était ce qu'on considère pas un lost media, mais en tout cas on ne savait pas d'où ça venait. On trouvait pas l'origine et il y a plein de gens qui s'amusent, qui ont comme hobby sur internet de retrouver l'origine des images ou des sons,
notamment sur 4chan,
surtout sur 4chan, et que ce soit ou des musiques même dont on n'a pas les auteurs. Il y en a notamment une qui est très connue et je crois qu'elle apparaît dans le film. Je l'ai pas reconnue, mais apparemment elle apparaît dans le film. Et ben en fait maintenant, alors que les backrooms se développent et deviennent un phénomène incroyable, il y a plus de personnes qui essayent de chercher d'où ça vient, et on a trouvé d'où ça vient. Et ça enlève du mystère. Et il arrive, avec ce film à faire, dans un univers où on sait d'où vient la photo. Et il arrive à le mettre dans sa mythologie. Je trouve ça franchement cool. Et ensuite, toutes les références qu'il y a. La porte, donc, pour délimiter le portail, il pourrait juste mettre un petit panneau, un petit meuble et tout. Il met du ruban adhésif, du long, un peu fin et bleu. C'est une référence à l'un des visuels de l'album Everywhere at the End of Time. Il va à un moment, il va y avoir, je considère pas ça comme un spoiler, il y a un espace qui va être des piscines, les pool rooms. Si vous avez vu par exemple le Findings de Feldup sur myhouse.wad, qui est aussi qui est une œuvre, un mode de Doom avec toute une histoire qui va reprendre plein de mythologies d'internet. J'avais le spectateur avec qui j'y suis allé, il m'a dit on a trop l'impression c'est myhouse.wad, mais c'est normal, ils viennent du même terreau. Mais le film va réussir à avoir autant de références, et moi il y en a une qui m'a beaucoup fait plaisir. Je me permets un tunnel d'un peu moins de 2 minutes pour réussir à transformer un concept aussi labyrinthique et complexe que les backrooms en récit. Il faut prendre un récit qui est complexe et labyrinthique et qui est à l'origine de tout. On peut dire, beaucoup de gens disent que le liminaire vient de Shining en termes d'esthétique, en tout cas que c'est l'un des premiers marqueurs, mais pour moi il y a une autre œuvre qui l'a beaucoup encapsulé, c'est La Maison des Feuilles, et je suis trop content. Dans son écriture, je vois qu'il s'est inspiré il a ouvert le livre et il s'en est inspiré pour en faire un récit, et ça me régale. Pour vous expliquer très rapidement, La Maison des Feuilles, c'est un livre que j'adore, qui est justement mentionné dans myhouse.wad, preuve que c'est le même terreau. Mais donc c'est l'un de mes livres préférés, sinon mon livre préféré. C'est un roman roman de Mark Z. Danielewski qui est sorti en 2000 et qui est de la littérature ergodique. C'est-à-dire que ça va pas juste être un récit ligne après ligne, ça va être un peu plus mystérieux, il va falloir réussir à trouver son chemin. Mais en gros, ça raconte l'histoire de Johnny, qui est un mec désabusé et névrosé à Los Angeles. Oui, j'ai fait un texte parce que sinon je vais me perdre. Il bosse dans un salon tatouage, il se drogue la nuit, voilà. Mais il va vriller le jour où il trouve tout un tas de documents rédigés par un certain Zampano qui vont l'obséder et il va falloir à tout prix qu'il le déchiffre. Zampano, c'était le voisin de son meilleur ami. Il est mort récemment et il a écrit des pages et des pages d'analyse académique laissées en désordre dans un coffre et donc qui va être trouvé par Johnny et qui parle d'un film qui s'appelle Le Navidson Record. Le Navidson Record, c'est un film documentaire par le journaliste photographe Will Navidson qui va documenter la maison dans laquelle il vient de s'installer avec sa famille parce que elle est plus grande à l'intérieur qu'à l'extérieur, mais seulement d'un quart de pouce. Donc ça le rend un peu fou, mais il se dit « Ah, sûrement que je me trompe dans les mesures ». Mais ça n'empêche pas qu'après, il y a des portes qui apparaissent, des pièces qui apparaissent, des murs qui bougent, un couloir impossible dans la cuisine et surtout un labyrinthe sombre et infini qui semble composé d'éléments de maison. Ah, ça me rappelle quelque chose. Et avec lequel il va devenir obsédé, il doit l'explorer et aussi découvrir quel est ce grognement périodique qui en sort. Ah, y aurait-il un boogeyman dans le labyrinthe inspiré de notre architecture? Donc voilà, Johnny découvre peu à peu ce film. En même temps, nous, on va lire des extraits de cette analyse, mais il va commencer à se rendre compte que le film n'existe pas. Et que Zampano, là, le grand analyste qui a écrit des pages et des pages, il est aveugle. Donc on va découvrir en plus le passé de Johnny. Navidson, il va engager des explorateurs pour son labyrinthe. On va découvrir les problèmes qu'il a avec sa femme. Johnny devient aussi un peu fou. Mais voilà, c'est un livre qui arrive à renverser le mythe de la maison hantée. La disposition des pages va être parfois complètement renversée pour s'adapter à la situation, pour un peu faire des calligrammes, mais de fiction, pas de poème. Et surtout, j'ai jamais lu un livre qui parle autant de cinéma, de documentaire, de found footage, même d'art en général. Il y a des tunnels entiers sur l'architecture ou sur le son, les échos, il y a des formules de mathématiques pour calculer l'écho alors que c'est juste un mec qui est chelou dans sa maison. C'est super. Et je vois par exemple le personnage masculin, c'est un mélange entre Navidson, donc du coup celui qui a sa maison qui vrille, et le chasseur qui va engager et qui va notamment explorer le labyrinthe. Les deux ont des comportements similaires. Et le personnage féminin, donc du coup incarné par Renate Reinsve, je ne sais pas, c'est suédois, norvégien, je ne sais pas.
Je dis Reinsve, mais je ne sais pas si c'est comme ça.
Bah elle, ça va être un mélange à la fois entre la femme de Navidson, avec comment elle doit le soutenir, parce que c'est ça, donc là dans le film c'est sa psychothérapeute, donc elle essaye de faire un suivi pour comprendre comment ça se passe. Et Johnny, en plus, qui est extérieur et qui va découvrir un concept qui va le dépasser. Enfin, qu'il se soit inspiré de ça et le fait tellement bien. Je pensais et j'espérais ne jamais voir une adaptation de La Maison des Feuilles. Là, j'ai du mal à voir comment on peut le faire mieux sans y aller littéralement. Et ça me régale. Est-ce que tu vas ajouter un dernier truc sur le film, Victoria ?
Pour revenir sur la fameuse back session de cette année, si je dois vraiment, si je dois résumer, on va dire une sorte de distinction entre les deux films, ça peut vous motiver à aller voir ces deux films si vous n'avez pas encore vu. Moi, je vous les conseille les deux en tout cas. Moi, je préfère Obsession, mais c'est vrai que Backroom est intéressant. Et en fait, moi, je distingue les deux films par le fait que Backroom, c'est avant tout une sorte de caligarisme. Le caligarisme, c'est quand une œuvre, c'est quand un lieu dans une œuvre occupe le premier rôle en tant que tel dans l'œuvre avant que entre dans la narration les personnages. Et Backroom, c'est complètement ça. Donc je dirais que Backroom, il a plus vocation à nous faire découvrir tout un univers, un lieu en lui-même qui est le rôle principal et qui va venir jouer avec l'esprit littéralement et la psychologie des personnages. Là où Obsession joue plus avec un concept qui va refléter complètement la personnalité des personnages et on va réfléchir avec l'évolution du scénario sur ce qu'on pense aux élites personnages. Donc voilà,
j'avais jamais vu ça comme ça, t'as trop raison. C'est Backroom, c'est un concept qui existe et les personnages qui vont y entrer, alors que Obsession, c'est des personnages qui existent et le concept va entrer dans la vie des personnages.
Le concept,
c'est trop intéressant.
Le concept va naître d'eux en même temps, c'est d'une action littéralement. En fait, le film n'a pas lieu d'être si il ne se passe pas ce qui se passe avec le souhait magique qui est pas du tout un cadeau d'ailleurs. Et voilà, et d'ailleurs Caligarisme, ça vient du film Caligari.
Le cabinet du docteur Caligari.
Le cabinet du docteur Caligari de Robert Wynne. Et là, c'est, ça a créé ça en fait. Donc voilà. je vous ai appris un mot en plus, voilà.
C'est trop cool. J'envie les personnes qui vont voir Backroom sans avoir aucun background derrière, parce que donc il y a eu toute une mythologie qui s'est créée et qui se disent il y a une personne qui a créé tout ça, enfin qui découvre tous ces sentiments que nous on a connus sur les internets. Ça doit être une expérience folle d'y aller avec un œil complètement nouveau, mais on va en parler un peu après une pause musicale. Je pense qu'on en a tous bien besoin. Victoria, tu nous es venue avec une musique que tu voulais nous passer.
Oui, j'avais envie de vous faire découvrir une artiste. Je pense qu'elle est là depuis 2-3 ans, un truc comme ça. Elle est un peu récente, elle s'appelle Magdalena B. Et en fait, je me disais que ça marchait bien avec l'émission parce qu'elle a vraiment un univers artistique vraiment très très propre. Ses clips sont hyper artistiques et ça ne s'inscrit pas dans l'émission parce qu'elle fait partie des... Enfin, elle communique des liminal space. Mais par contre, son esthétique, c'est le dreamcore. Ça, on va parler après, à mon avis, parce qu'il y a plein de films dont on s'est inspiré pour l'émission qui s'inscrivent dans ce dreamcore. Et le dreamcore qui est un petit concept un peu cousin du liminal space. Donc voilà, je vous laisse découvrir son univers qui est vraiment très dreamy, mais on sent quelque chose de malsain dedans quand même, quoi. À tout de suite.
À tout à l'heure. Êtes de retour dans Scope, votre émission cinéma du mercredi sur Radio Campus. Et aujourd'hui, vous l'aurez peut-être compris au style du morceau qu'on vient d'entendre, c'est notre émission dédiée au film Backrooms ainsi qu'aux esthétiques liminaires. On vient de faire notre review du film qui était quand même globalement positive, hein, c'est un film qu'on a bien aimé, mais qui s'inscrit donc dans cette case de l'horreur, cette mouvance qu'on appelle espace liminaire ou horreur liminaire, qui semble en fait se dériver dans plein d'autres œuvres ou plein d'autres concepts, et qui a peut-être un avenir ou non. Et moi, je voulais vous demander, déjà je me tourne notamment vers Sarah, est-ce que les espaces liminaires, ça vous parle?
Eh bien non, Martin. Moi,
oui, parlons-en. Disons ce que les gens n'osent pas dire, parce qu'il y a plein, de discussions où on dit « Ah, c'est quand même fou, oh, je ressens ça », mais il n'y a pas beaucoup de nuances, donc j'ai très hâte de pouvoir en apporter.
Eh ben, on te tend le micro, vas-y Sarah.
L'horreur par l'espace, ça ne m'évoque rien, ça ne me fait rien, ça ne me fait pas peur, ça ne me met pas mal à l'aise. Je suis là, oui, ces bureaux sont moches, oui, le jaune pisse en papier peint, ça ne marche pas. Oui, les piscines vides, c'est très cool, mais...
Elles sont pas si vides, techniquement, il y a de l'eau dedans.
Oui, mais encore plus cool. Non, mais donc voilà, ce concept d'horreur par l'espace, j'avoue, ça me passe totalement au-dessus, à côté, tout ce que vous voulez. D'ailleurs, j'en viens à me demander si c'est pas un concept finalement assez masculin, voilà.
Oh.
Le côté 4chan, Feldjob, ouais. Tout ça, je me dis, non, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à creuser de ce côté-là ? Mais donc voilà, de base, ça ne me parle pas du tout, mais en effet, après avoir fait des petites recherches, je trouve que ça touche à plein de sujets intéressants. Voilà, il est question de spectre du capitalisme, de l'inhumanité des conditions de vie d'aujourd'hui, d'apocalypse molle où on ne peut plus s'imaginer de futur pour cette humanité. Et ça, j'avoue, politiquement, artistiquement, ça me parle un petit peu plus. Mais vraiment, personnellement, ça, je n'en ai rien à faire. Le film, à la base, avant de voir le phénomène que c'est devenu, ne m'intéressait pas, en fait. Mm-hmm. Je comptais pas le voir spécialement. Après, voilà, ici, en tant que spectatrice curieuse et enthousiaste, je vais essayer d'aller le voir, mais non, moi c'est pas du tout quelque chose qui me parle. Et voilà, est-ce que vous comprenez ces critiques?
Je peux voir, je me demandais, toi c'est au niveau de la peur, ou ça t'évoque pas de peur, enfin ça te fait pas peur vu que c'est quand même un imaginaire qui s'inscrit dans l'horreur, ou est-ce que t'as même pas de sentiment un peu ce sur quoi les personnes essayent de poser des mots, soit une forme de nostalgie, de sentiment d'avoir été là. Est-ce que ça aussi, c'est complètement absent de ta perception de ces espaces ?
Plutôt, ouais. Je sais pas pourquoi, mais non, ça me fait pas peur, ça me met pas mal à l'aise. Je sais pas, je trouve ça juste... Je trouve ça sympa, en fait.
Tu aimerais y vivre, tu veux vivre dans les backrooms.
Non, mais... Je sais pas, je pense, en tant que photographe aussi, je me dis, ouais, j'aurais bien aimé voir ces lieux, faire ces photos, être solo, une petite sortie photo, et moi créer ces images. Voilà ce que ça m'inspire.
C'est justement ce que je voulais te demander, parce que je sais que t'es beaucoup dans la photographie, et plein de personnes disent que c'est un phénomène très photographique. Enfin, c'est des images qu'on trouve sur Internet, forcément, c'est des photos, à la limite, c'est des dessins. Est-ce que c'est quelque chose que t'as rapporté par exemple à d'autres photographes, ou est-ce que c'est justement quelque chose que t'as vu plus efficace ailleurs, que donc ici t'as l'impression que c'est un niveau vraiment faible?
Mais en effet, c'est le concept d'espace liminaire est intrinsèquement photographique, ça vient de cette production d'images et leur partage sur Internet, avec toute cette histoire aussi de surconsommation de l'image numérique. Donc intrinsèquement photographique, c'est clair, et ça m'a fait penser pour le coup au travail d'un photographe que j'aime beaucoup, qui s'appelle, en tout cas son pseudonyme c'est Briscoe Park, dont on peut retrouver le travail sur Twitter et aussi sur YouTube, parce qu'il a fait une série de vidéos qui s'inscrit de nouveau un petit peu dans cette mouvance horrifique, où on le voit, voilà, sac à dos et appareil en main, se balader dans le marais en Louisiane, dans des vieilles églises désaffectées de nuit, et il va prendre des photos de ces lieux de vie, ou en tout cas anciennement de vie, ces photos qui sont un petit peu... De nouveau, je dirais pas que c'est du malaise, pas pour moi en tout cas, mais on se dit tiens, qu'est-ce qui se passe ici ? Et sur certaines de ses photos ou dans certains de ses récits, en fait, il explique que vraiment il a eu peur, parce que parfois il se demandait est-ce qu'il était vraiment seul, que ce soit des gens ou d'autres choses. Parfois il a été, je me rappelle d'une histoire où il a été poursuivi par un alligator. Voilà, quand on est dans le marais en Louisiane, ce sont des choses qui arrivent. Mais donc oui, un média intrinsèquement photographique, et il y a plein de photographes qui font du très beau travail là-dessus, dont tous les environnements, finalement, pourraient s'y prêter, je pense, visuellement, à ces concepts de vide, de nostalgie, que je comprends, mais qui, personnellement, ne me touchent pas.
Et j'avais encore une autre interrogation. Il y a un aspect qui semble aussi intrinsèque aux photographies d'espace liminaire, ou en tout cas au backroom, c'est un peu cette image un peu crade, un peu analogique, ce qu'on appelle souvent analog horror, et que j'adorerais aborder après quand on parlera de Skinamarink, si on trouve le temps. Mais est-ce que toi, justement, ce grain, tu penses c'est quelque chose qui va en ton sens, ou qui contribue au fait que ça te parle pas? Est-ce que par exemple ce photographe dont tu nous parles, lui, il a des images aussi très analogues, ou à l'inverse c'est très propre?
C'est intéressant parce qu'il fait de la photo numérique d'assez haute qualité, mais comme il travaille beaucoup de nuit, on va avoir cette notion en photo de nuit avec peu de lumière, cette notion de bruit numérique qui fait que la qualité de l'image est forcément dégradée. Et en fait, aujourd'hui, ce qui se passe en photo, c'est que l'image est tellement parfaite qu'en fait, on retouche pratiquement systématiquement. On va ajouter soit du bruit, soit un peu plus joliment du grain, en fait, pour rajouter cette texture à l'image qui aujourd'hui manque comparée aux vieilles digicam ou à l'argentique.
L'argentique, les VHS, ouais. Et toutes ces sortes de cassettes. Ok, donc c'est, ils rajoutent ça, ouais, au-dessus de ces images. D'accord. Et ensuite, pour un peu voir, j'avais envie de vous demander, vous, quelles autres œuvres s'inscrivaient dans le liminaire ? Parce que, donc, comme c'est un sentiment plus qu'autre chose, pas juste une invention du net, c'est quelque chose qui est inscrit en nous et qui n'est pas apparu en 2017. Et je pense qu'il y a inévitablement des œuvres même préalables qui peuvent s'y inscrire. Et revenir donc sur vos recommandations ou même les autres œuvres qui vous ont parlé. Et je voulais surtout revenir sur la tienne, Sarah, qui m'a surpris. Tu trouvais que Disco Elysium, le jeu vidéo indépendant, si je dis pas de bêtises, te rappelait beaucoup toutes ces problématiques. Est-ce que tu peux nous parler justement de Disco Elysium, que pour ma part j'ai pu essayer une petite heure et que j'ai déjà hâte de m'y plonger encore plus profondément.
Ok, alors, résumé très rapide de comment je le résume généralement aux gens. On incarne un flic perdu, littéralement, qui se réveille un jour après une gueule de bois de trop, qui ne sait plus...
Galactique, la gueule de bois.
C'est inimaginable.
Amnésie.
Il ne sait plus comment il s'appelle, il ne sait plus pourquoi il est là, mais voilà, il est là, et en fait, il y a un meurtre à résoudre. Donc, c'est le point de départ, on n'en sait pas beaucoup plus au début. Et donc, oui, c'est un jeu vidéo, un CRPG, pour être précise. Donc, l'aspect narratif du jeu va être vraiment très important. C'est comme jouer
un visual novel.
C'est
beaucoup de textes, beaucoup de voix qui parlent, et c'est énormément de lecture quand même. Il y a beaucoup de mouvements et moi j'adore que ça s'inspire aussi beaucoup du jeu de rôle où il y a des dés qui apparaissent.
Totalement.
Mais je pense que la moitié du temps est passée à parler avec des personnages.
Complètement, à écouter ou à lire des dialogues. Et je sais que cette suggestion a fait un peu débat parce qu'on m'a dit oui mais est-ce que Disco Elysium, est-ce que c'est vraiment les espaces liminaires, est-ce que c'est pas du post-apo plutôt ? Et ben moi je trouve que ça se discute justement.
Okay.
Qu'il y a du pour et du contre. Parce que voilà, cette horreur par l'espace dans Disco Elysium, on va avoir ces espaces abandonnés. On va avoir ce concept d'apocalypse molle. Il n'y a pas eu de grands événements dans Disco Elysium là, récemment, qui ont fait qu'on en est où on en est en tant que société. Non, ces événements, ils sont vieux. La vie, elle a continué. La vie continue et... mal, et c'est ça qui fait peur. Et ce concept aussi de spectre du capitalisme est vraiment très puissant dans le jeu. Martin, tu le découvriras.
Oui, j'en parlerai après pour vous dire le non-spoil. J'ai joué vraiment une heure et demie max.
Il ne sait rien.
Je ne sais
même pas
rien.
Comment le personnage s'appelle.
Le jeu dure 35 heures, donc...
Et qu'est-ce que je voulais encore vous dire ? Oui, pour moi, il y a vraiment ce côté, cette mélancolie. Ce côté, est-ce que c'est un souvenir ? Est-ce que c'est un cauchemar ? On ne sait plus trop. Cette errance aussi. Où est-ce qu'on va ? Quels étaient ces espaces ? Qui habitait ici ? Comment ? Et donc, je trouve que l'expérience Disco Elysium se rapproche pour moi de votre expérience.
Et très rapidement, avant, je crois que tu parlais de capitalisme. Qu'est-ce que tu voulais dire dessus ? Je crois que tu as été coupé. Je t'ai coupé ou de néo-capitalisme. Enfin, moi, c'est quelque chose qui m'a assez touché, en fait, que on comprend assez vite qu'on... Donc, on est dans de la science-fiction, évidemment. On est dans un futur plus ou moins lointain, plutôt lointain que... plutôt plus que moins.
Oui.
Et pourtant, ça ressemble énormément à notre ère, comme si on était dans du The Last of Us, qui est donc de l'échelle de 30 ans. Et avoir ces décors qui sont si proches d'une autre et qui juste, on a l'impression, n'ont pas bougé et sont dans une décrépitude, c'est sale. Ça me rappelle vraiment pas mal The Last of Us ou du post-apocalyptique, comme on en a vu plein à la Fallout aussi. Et pourtant, on a l'impression que c'est notre monde qui vieillit, mais plus lentement, mais qui vieillit quand même tellement on est loin.
Et qui entre en décrépitude, et on se dit, et c'est ce qui a été dit dans la vidéo de Blast aussi, comment des humains ont pu designer de tels espaces ou de tels événements qui ont modifié cet espace pour que d'autres humains y vivent, et c'est une question centrale au cœur de Disco Elysium.
Il y a d'autres films aussi, là on parlait de jeux vidéo, mais il y a des films qui peuvent nous rappeler cette esthétique liminaire. On s'est fait une petite liste avec Victoria liée à ça et même notamment à La Maison des Feuilles. Toi, qu'est-ce que tu as pu voir et de quoi tu veux nous parler, Victoria ?
Il y a autre chose que j'ai vu et qui n'est pas cinématographique mais picturale. Parce que, en fait, les espaces liminaux, ça me disait déjà un truc, c'était déjà un peu familier parce que il y a un mouvement qui s'appelle le surréalisme qui explore pas mal ça. Le Dreamcore, je pense, sans le surréalisme, n'aurait pas vraiment la même gueule ou en tout cas n'aurait pas existé du tout. Et il y a un peintre surtout qui explore beaucoup ça, c'est Magritte en fait. Et je trouve que Magritte, dans ce qu'il fait, me rappelle pas mal l'ambiance, les espaces liminaires. Mais en termes de film, il y avait évidemment le plus connu, c'est Shining. Hein, je pense qu'il a réussi à instaurer, encore une fois, là aussi, c'est caligarisme. Enfin, si l'hôtel n'était pas aussi flippant, il n'y aurait pas d'histoire du tout. L'histoire, c'est l'hôtel.
C'est l'hôtel est tout vide, justement, il est censé être rempli et il est tout vide.
C'est ça, et c'est des espaces impossibles.
Mais voilà, ça c'est le plus connu. Mais moi, il y en avait un que j'ai vu et en fait, il m'a beaucoup fait penser à Backroom dans cette sursymétrie de l'espace, c'est Vivarium.
J'ai adoré. Ouais.
Ah, j'ai contente. Parce que c'est pas un film super connu et franchement il est vraiment pas mal du tout quoi.
Oui, il est tout récent, il date de 2019, ouais. Et j'ai surtout beaucoup aimé Backroom se met un peu dans cette mouvance aussi d'essayer de mettre le doigt sur ce qui nous parle dans ces espaces, la nostalgie, l'impression d'avoir déjà été là. Là il va Vivarium va mettre en exergue un peu qu'est-ce qui fait l'humain et l'inhumain. Il va beaucoup parler de capitalisme, enfin il va mettre ça dans il passe par une agence immobilière d'abord, ensuite c'est un peu préparé pour eux, on est dans de la consommation. Et il va réussir à mettre le doigt, oui, sur ce qui différencie cette non-humanité, le liminaire, de l'humain, et clairement le mettre dans cette case du mal, en fait, qui est à l'inverse de l'humain, à l'inverse de l'homme, à l'inverse de la vie, et personnifié par un petit garçon. Donc oui, Vivarium, qui est donc une histoire d'un couple qui cherche une maison, et il se retrouve en fait piégé dans une résidence pavillonnaire où ils sont entièrement seuls, qui semble infini, ils sont bloqués, toutes les maisons sont exactement les mêmes et on leur donne un enfant qui n'est pas à eux à élever et qui grandit à vitesse accélérée. C'est assez dérangeant et ça met le doigt sur plein de choses, sur ce sentiment qui peut-être à cette époque on mettait à peine le nom liminaire dessus.
Mm-hmm. En plus, c'est Jesse Eisenberg aussi qui
s'en sort bien.
Bah oui, vraiment, c'est évidemment l'interprète principal de Social Network. Mm-hmm. Et c'est aussi devenu un jeune réalisateur aussi. Hein. L'année dernière, il avait fait Real Pain aussi.
Real Pain, j'avais bien aimé.
Trop bien.
Voilà.
Et voilà, après, moi, quelques recos que je voulais aussi faire. J'ai découvert Skinamarink, qui est donc un film très analogue avec un énorme grain. Et on a l'impression qu'il y a un vinyle vierge qui tourne en continu, que ça crépite tout du long. Et c'est deux enfants qui se réveillent la nuit, comme on se réveille pour aller faire pipi, et puis tout noir, on a un peu peur. Et ils se rendent compte que leurs parents ont un peu disparu, ou leur père a disparu, c'est pas clair. Et en même temps, il y a peut-être une présence un peu dans le noir, et les fenêtres disparaissent, et les portes aussi. Et en fait, c'est vivre dans le noir pendant une heure et demie, avec des plans de portes et des plans de coins de canapé ou de plafond.
Des protagonistes qui ont moins de 10 ans, c'est flippant aussi. Quoi.
Qui ont 4 ans max, qui entendent des voix dans le noir.
C'est horrible.
On voit zéro visage, on voit que des plans des pieds ou des silhouettes.
Ça joue beaucoup sur le décadrage pour te mettre encore plus mal à l'aise. Tu sais pas vraiment précisément ce qui se passe, mais tu sens qu'il se passe des choses pas ouf. Quoi.
Et c'est extrêmement lent. Je vais utiliser le terme dillmanien parce que Ackerman est dans leurs inspirations sur leur page wiki. Mais voilà, Skinamarink, c'est très cool. Et j'ai aussi vu Dave Made a Maze qui est assez rigolo. Alors malheureusement, ça a vraiment la réal d'un sketch moche ou d'un sketch internet, d'un petit projet. Mais c'est rigolo, c'est un gars qui sait pas quoi faire de sa vie. Il vit à crédit chez sa copine. Et un jour, elle rentre et pour s'occuper de la journée, il a fait un labyrinthe en carton dans son salon. Et il dit, je peux pas sortir, je suis coincé dedans. Elle dit, bah non, t'es dans le salon, enfin ça fait 2 mètres, lève-toi. Il dit, je peux pas, et c'est plus grand à l'intérieur. Et c'est une sorte de dédale avec un minotaure, justement, maison des feuilles. Et il se retrouve piégé là-dedans. Il y a plein de pièges qui font des confettis à la place du sang. Enfin voilà, autre reco très cool.
C'est super créatif comme film. Et d'ailleurs, fun fact, pour une fois. En fait, la création du film, ça venait du scénariste qui voulait faire un projet qui s'appelait Operation Death Maze, donc Opération
Labyrinthe de la mort.
Et en fait, le réalisateur s'est dit, ça me rappelle quand j'étais petit que je faisais des cabanes chez moi avec plein de couvertures. Et j'avais un sentiment que cette cabane était infinie. Et donc, ça lui donnait envie de faire ce labyrinthe complètement en carton. Et d'ailleurs le but du film, enfin ce qu'il disait, c'est que si il marche dedans, ce qui est fun, c'est le carton en tant que tel. Et il s'amuse beaucoup avec le matérialisme, enfin du lieu en tant que tel, donc le côté palpable du carton et tout l'imaginaire que tu peux créer à partir de ça.
Le chef déco ou la chef déco se sont amusés de des immenses décors en carton, ça c'est super. Et on arrive au terme de cette émission. J'ai adoré la faire, j'ai trop hâte de voir si l'horreur liminaire va nous suivre dans l'avenir du cinéma ou de l'art, et moi je pense que oui, à un certain degré. J'espère qu'elle va évoluer pour toucher plus de monde, notamment Sarah qui va passer de notre côté et voir que ok, il y a des aspects qui sont cool. Mais donc évidemment je remercie les deux personnes qui ont choisi d'être avec moi aujourd'hui pour faire cette émission. Merci Victoria.
Merci à vous, c'était trop cool.
Et merci Sarah.
Merci à toi.
Et voilà, on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour la Queer Joy, peut-être, on verra.
Peut-être,
on croise les doigts. On va essayer de faire, même si on n'est plus en jeu, on va essayer de faire cette émission Queer Joy, on va essayer. Mais voilà, on vous souhaite un excellent mercredi, allez au cinéma, il y a de la clim là-bas, et au revoir.
Ciao.
Très bonne journée, salut.